Le père Ludovic Lado, prêtre jésuite et anthropologue au Cameroun, il est connu pourtant comme étant un dissident au régime actuel et une voix qui dénonce les injustices du gouvernement. D'ailleurs, il évoque des questions très graves avec une voix bien douce et des réponses suffisamment pertinentes. Bonjour, mon père, et bienvenue.
Et bonjour à tous les auditeurs.
Alors, vous êtes considéré comme l'un des opposants les plus farouches au régime de Paul Biya. Est-ce que c'est justement une perception qui va au réel?
Alors, je dirais plutôt que je suis un opposant à la longévité du régime en place. Mm-hmm. Je ne suis pas contre un régime en tant que tel, parce que de toute façon, ce qui nous préoccupe, c'est la bonne gestion de la chose publique. Et je me bats, j'apporte ma modeste contribution à l'avènement d'une véritable démocratie au Cameroun. Et quand on parle de démocratie, l'une des caractéristiques, c'est l'alternance. Mmh. Et j'estime simplement que ce régime a trop traîné et il est temps qu'on le renouvelle parce que, bien évidemment, on le constate, les fruits ne sont pas toujours bons.
Mais Lungata, j'ai un problème. C'est le père de. Tu as dit père jésuite. Jésuite, c'est l'église de Jésus, c'est comment?
C'est quoi un prêtre jésuite?
Un prêtre jésuite, c'est un prêtre catholique, comme tous ceux qu'on connaît dans l'église catholique, mais qui fait partie de la compagnie de Jésus, qui est une des congrégations religieuses au sein de l'église catholique, mais c'est la même église. C'est comme si vous aviez plusieurs chambres dans une même maison, et la chambre dans laquelle nous résidons dans cette maison, qu'est l'église catholique, c'est celle des jésuites, et c'est eux qui tiennent par exemple le collège Liberman à Douala, et ils travaillent aussi à l'université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, à la faculté de sciences sociales et de gestion. Donc, ils sont présents au Cameroun depuis ça fait déjà plusieurs décennies. Mm-hmm. Oui.
Mais en quoi un prêtre jésuite est différent d'un prêtre tout court?
Parce que dans l'Église catholique, on distingue les prêtres diocésains qui dépendent directement d'un évêque, d'un prêtre religieux qui dépend d'une congrégation religieuse. Mm-hmm. Et c'est le cas pour les jésuites. Et il y en a des centaines dans l'Église catholique, des congrégations religieuses. Les jésuites sont ou constituent l'une des congrégations les plus anciennes, puisqu'on existe depuis 1640.
Mm-hmm. Depuis 1640. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a des... Comment on reconnaît un prêtre jésuite?
Alors, très bonne question. À vue d'œil, il n'y a pas de différence. Mais au fond, ce qui nous distingue dans cette grande famille qu'est l'Église catholique, c'est un peu ce qu'on appelle le charisme de chaque unité, donc de chaque congrégation. Et les jésuites ont l'habitude de dire que leur charisme, c'est de rechercher dans tout ce qu'ils font la plus grande gloire de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils font un peu de tout pour le service de l'humanité. Ils sont dans l'éducation, la santé, même le journalisme. Vous trouvez des jésuites journalistes. Donc, ils sont pratiquement dans la plupart des corps de métier. Et notre souci, c'est de mettre chacun son talent au service de l'humanité.
On a l'impression que les jésuites, selon vous, sont un peu plus libres que les autres prêtres.
Je ne dirais pas un peu plus libres, parce qu'au fond, la spiritualité chrétienne est essentiellement une spiritualité de la liberté intérieure. Et d'ailleurs, on en parlera quand on évoquera le livre. Pour prendre des bonnes décisions, il faut être intérieurement libre. Je dirais simplement que nous sommes effectivement peut-être plus sensibles à la question de la liberté de penser, la liberté de se mouvoir, ou tout au moins d'apporter sa contribution ou d'explorer des nouvelles pistes pour un plus grand service de l'humanité. Et c'est pour cela que dans l'histoire, les jésuites ont souvent été associés à de très grandes innovations, que ce soit dans le domaine de l'éducation ou même dans le domaine scientifique et autres, dont, tout simplement parce que souvent on ose, si vous voulez, emprunter des chemins qui ne sont pas nécessairement des sentiers battus. Mmh. Et ça peut nous faire des amis comme ça peut nous faire des ennemis. Et dont notre histoire est jonchée de cette... notre aventure est jonchée de ces variables.
Voilà. Donc les jésuites ne sont pas les sectaires.
Non, pas du tout. Oh là là, c'est comme je l'ai dit, c'est l'Église catholique. Et on a notre place, on est en bonne place dans l'Église.
Mais quand j'étais dans le sud de Cameroun, là-bas, il y avait des prêtres. On entendait que les prêtres dormaient souvent au cimetière. Je veux souvent savoir si c'était des jésuites. Ils allaient souvent prier. Ils dormaient souvent minuit, 1, 2, 3 heures au cimetière. C'était des jésuites. Et qu'est-ce qui amène un prêtre à aller se coucher au cimetière?
Oh là là, ça, je l'apprends de vous. Je ne savais pas qu'il y a des prêtres qui dorment au cimetière. Si des gens le font, ça veut dire qu'ils sont en train de dérailler. Il n'y a rien dans la spiritualité d'un prêtre dans l'Église catholique qui nous demande de dormir au cimetière. Non, pas du tout. Si quelqu'un le fait et qu'il est prêtre catholique, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Alors, Père Ludovic Lado, vous êtes écrivain, auteur de plus de 5 ouvrages. Le dernier, d'ailleurs, est coécrit. Comment prendre une bonne décision? Guide de discernement spirituel dans la vie quotidienne. Ludovic Lado, donc, vous l'avez...
Coécrit
coécrit avec Philippe Abada et Christophe Coulio. Évidemment, nous parlerons complètement de ce livre, mais est-ce que vous ne sortez pas du champ de votre compétence aujourd'hui quand vous vous engagez pleinement dans la politique et dans la critique du régime au pouvoir?
Non, pas du tout, parce que la mission des jésuites dans le monde aujourd'hui se décline en termes de foi au service de la justice sociale. Et donc, tout ce que je fais, c'est quand je prends une posture critique par rapport à la gestion de la chose publique au Cameroun, je suis dans mon rôle, j'essaye de mettre ma foi au service de la justice sociale. Parce que vous savez, la justice sociale se définit comme la répartition équitable du bien commun. Alors quand on peut se poser la question de savoir si au Cameroun aujourd'hui le bien commun est équitablement reparti, je ne le crois pas. Et c'est ce que nous essayons de dire, de dénoncer, c'est que ce pays se porterait beaucoup mieux si le bien commun n'était pas pris en otage par un petit clan aux dépens, n'est-ce pas, de la veuve et de l'orphelin. La majorité des Camerounais, la plupart des Camerounais, ils n'ont ni argent, ni relations, ni pouvoir pour se faire justice. Et donc, ils sont à la merci d'une minorité qui a pris en otage les richesses de ce pays. Et justement, nous prêtons notre voix à ceux qui se battent pour que le bien public soit mieux géré dans ce pays pour le bien de tout le monde.
Mais et depuis que vous formulez ces critiques envers l'autorité en place, est-ce que vous croyez que ça a changé quelque chose, ça a amélioré quelque chose?
Bonne question. Ben, on aurait pu se taire, mais est-ce que c'est la solution? Il faut choisir parfois entre se taire et se dire ben, à quoi ça sert de parler. Vous savez, dans le jargon chrétien, on a ce qu'on appelle la voix qui crie dans le désert. Et souvent, cette voix-là, bien évidemment, n'est pas toujours entendue, mais elle est faite pour crier, pour que même ceux qui s'égarent au moins l'entendent. Et c'est ce que nous essayons de continuer à faire dans la société d'aujourd'hui. C'est d'être peut-être la voix qui crie dans le désert, mais en espérant qu'un jour elle sera écoutée par ceux qui ont le pouvoir justement de décider, le leadership, parce qu'ils ont la responsabilité devant Dieu de dispenser la justice sociale. Donc peut-être les choses ne changent pas au rythme que nous le souhaitons, mais nous restons dans notre rôle, celui de dénoncer ce qui ne va pas et d'ailleurs aussi de collaborer avec ceux qui le souhaitent. J'ai pas mal de contacts avec la société civile et aussi les leaders de partis politiques et très souvent on réfléchit sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que la fédération de nos efforts
aboutissent au changement et à l'alternance.
Exactement.
Mais, voilà. Mais est-ce que vous avez peut-être une solution avec vous, puisque vous êtes prête, c'est-à-dire que vous avez des fidèles à qui vous pouvez conseiller, par exemple, d'aller voter l'opposition. Est-ce que c'est ce que vous faites?
Alors, le rôle d'un prêtre, ce n'est pas de conseiller aux chrétiens de voter pour X ou pour Y.
Mais vous les influencez à travers vos positions.
Oui, on influence dans la mesure où on leur dit, c'est à vous de discerner les différents programmes de société et voter pour le programme de société qui contribue à promouvoir la justice sociale. Et c'est pour cela que nous sensibilisons les responsables de partis à bien ficeler leur programme de société pour que chacun en conscience, n'est-ce pas, discerne le programme qui sert le mieux l'intérêt, le programme qui sert le mieux l'intérêt commun et s'oriente vers là. C'est pas le rôle de l'Église de dire voter pour X et pour Y. Alors, comme je l'ai dit, au fond, si j'ai une posture critique à l'égard du régime en place, c'est parce qu'il a verrouillé les règles du jeu. Si le jeu électoral et même, je dis, politique devient transparent, bien évidemment, tous sont appelés à concourir, y compris ceux qui sont au pouvoir actuellement. On n'est pas là pour exclure qui que ce soit, mais il faut à la base que le jeu soit transparent et équitable pour tout le monde. Or, là, on a l'impression que tout est verrouillé.
Mais comment peut-on verrouiller
pour reproduire le même système?
Mais comment peut-on verrouiller alors qu'on parle de démocratie?
Mais c'est ça qu'on ne comprend pas. Bien évidemment, dans un pays comme le nôtre, on ne comprend pas pourquoi est-ce que on ne peut pas faire une élection à deux tours. Pourquoi est-ce que on ne peut pas avoir un code électoral consensuel. Je pense que dans les démocraties qui sont éprouvées et on pourrait dire approuvées, il y a des pratiques desquelles on peut s'inspirer, mais dans notre pays, on se rend compte qu'on fait tout justement pour que le système qui est en place se reproduise. Si ce système en réalité servait les intérêts du peuple camerounais, on s'en plaindrait peut-être pas trop. Mais je sais pas, je rencontre peu de Camerounais aujourd'hui qui sont contents de la manière dont leur pays est géré. Et c'est pour cela qu'on veut que le jeu politique s'ouvre de nouveau pour que les Camerounais choisissent véritablement celui ou celle qu'ils veulent voir à la tête de ce pays. J'ai pas l'impression que le dispositif actuel le permet.
Alors, quand je vous entends un peu, permettez-moi tout de même de dire que j'entends un peu Monsieur le cardinal Christian Toumi. Est-ce qu'il vous soutient? Est-ce que toute l'Église catholique est derrière vous? On peut croire que toute l'Église catholique est derrière vous et vous accompagne dans la stratégie qui vise à renverser le régime?
Non, nous ne sommes pas là pour renverser le régime. C'est pas de toute façon.
Mais vous appelez à l'alternance de tous vos voeux?
Oui, bien évidemment. Quand j'appelle à l'alternance, c'est parce que je suis convaincu parce que je cause avec les Camerounais, que s'il y a une élection transparente, beaucoup voudraient un renouvellement de l'apparatus politique. Et quand on leur donne cette chance-là, j'ai pas l'impression. Et donc, quand vous demandez si toute l'Église me soutient, non, pas du tout. Et d'ailleurs, je ne prétends pas parler au nom de toute l'Église catholique au Cameroun. C'est mon point de vue en tant que prêtre, en tant que citoyen de ce pays.
Mais c'est indétachable de votre ministère.
Et c'est indétachable parce que je le considère comme étant le prolongement de ma mission de prêtre. Mais le prêtre comme individu, bien évidemment, représente à son niveau l'Église officielle, mais je ne suis pas la voix officielle de l'Église catholique. Et donc, c'est pour dire que, bien évidemment, la trajectoire des évêques comme Monseigneur, le cardinal Toumi, c'est des trajectoires qui m'inspirent. Et j'ai eu l'occasion de discuter plus d'une fois avec lui sur certaines de ces questions qui touchent à l'avenir de notre pays. Mais il y a beaucoup d'autres évêques aussi qui m'inspire sur ces questions, mais je ne parle pas au nom de l'Église catholique du Cameroun, même si j'aurais souhaité que mon Église prenne un peu plus parole ou se prononce un peu plus sur l'avenir de notre pays et ce qu'elle peut apporter, parce que, encore une fois, l'actualité montre que ce pays ne se porte pas bien.
Mais mon père, on a reçu Joseph-Antoine Bell il y a quelques jours qui nous disait qu'effectivement, l'alternance est possible, mais pas obligatoire.
Mais rien n'est obligatoire, bien évidemment. Rien n'est obligatoire. Mais l'expérience, pourquoi est-ce que les grandes démocraties pratiquent l'alternance? Ils ont une plus longue expérience que nous. Et je ne vois pas quel intérêt on a à s'éterniser au pouvoir. L'alternance a ses vertus parce que ça nous permet de renouveler l'appareil politique et de donner la chance à un plus grand nombre de citoyens de contribuer à la construction du bien public. Et en réalité, si on ouvrait le jeu démocratique et que le peuple décidait de renouveler le même parti politique au pouvoir au fil des années, il n'y aurait pas de problème. Donc c'est pour cela qu'on souhaite que le jeu soit ouvert.
On a un auditeur qui dit il veut l'alternance ou le changement à la tête du régime. Et il poursuit en disant, est-ce qu'il y a alternance au Vatican? Pourquoi c'est au Cameroun que vous le voulez?
Ben, il ne faut pas mélanger les pédales. Le Vatican, c'est l'Église. Et l'État camerounais, c'est la chose publique. Quand on parle de l'Église, on entre déjà dans le privé. Parce que si on parle des questions de foi, la foi relève, la foi, l'Église et autres relève de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, plutôt de la société civile. Alors quand on parle du Cameroun, c'est un État. Et l'État doit... Le Vatican rencontre rien qu'aux chrétiens. L'État camerounais rencontre à tous les Camerounais, indistinctement. Et donc, par conséquent, on ne peut pas comparer le mode de succession au Vatican au mode de succession ou bien de renouvellement ou d'alternance au sein d'un État comme le Cameroun. Surtout que nous nous autoproclamons démocratiques.
Le Vatican est-il un État?
Mais bien évidemment, c'est un État, mais c'est un État qui a un statut tout à fait particulier parce que c'est le plus petit État du monde. Et on a donné cette prérogative au Vatican tout simplement pour faciliter, et c'est là une longue histoire des relations entre l'Église et l'État. Vous savez qu'à une époque, l'Église et l'État, c'était la même chose au Moyen-Âge, mais après la Révolution française et autres, il y a eu la séparation Église-État. C'est pour cela qu'on parle de l'État... de l'État séculier ou de l'État laïque. Et tous les États aujourd'hui, en dehors du Vatican, sont des États laïques. Ça veut dire qu'ils ne sont pas au service d'un agenda religieux en particulier, mais au service de toutes les populations, quelle que soit leur appartenance religieuse. Et donc, c'est pour cela que je dis que comparaison n'est pas raison. On ne peut pas... Et le Vatican ne s'est jamais déclaré État démocratique parce qu'il a ses traditions. Alors que le Cameroun se déclare État démocratique, ça veut dire qu'il y a la possibilité de renouveler la classe politique à travers des élections. Voilà.
Alors, mais il faut quand même dire que moi, j'ai déjà vu trois papes. J'ai vu le pape le pape Jean-Paul II. Voilà. J'ai vu l'avant-dernier pape qui a démissionné.
Le pape Benoît XVI.
Le pape Benoît XVI. Et j'ai vu cet autre pape.
Donc.
Voilà, le pape François.
Donc voilà.
Bon, alors que j'ai vu.
Et donc vous pouvez dire qu'il y a eu alternance.
Il y a eu alternance. Même si, et encore que l'alternance à la tête de l'Église catholique, c'est vrai, ils ont démissionné. Benoît XVI a démissionné parce qu'il se sentait plus la force de l'âge. C'est ce qu'on conseille au président Paul Biya, on croit qu'à son âge, il faut qu'il se repose, qu'il laisse la place à un plus jeune. On n'a rien contre lui.
Mais il se sent encore fort.
Ben, c'est lui qui le dit. La preuve, c'est qu'on ne l'a pas vu, ça fait des mois maintenant.
Est-ce qu'il est un peu lié par les chaînes, selon vous?
Je crois qu'il a un entourage qui ne lui rend pas service. Et donc, il devrait s'en rendre compte. Quand on a atteint cet âge à la tête d'une institution et qu'on n'a plus nécessairement la vigueur de toutes ses facultés, eh bien, ceux qui vous entourent, ils vous utilisent pour leurs propres intérêts. Je crois qu'on en est là au Cameroun aujourd'hui.
Pourtant, c'est pour dire qu'il est plus fort que jamais. C'est même maintenant qu'il a la sagesse. Parce qu'à l'époque, on n'avait que la force physique. Mais là, il a maintenant la sagesse qui est mélangée dans la force physique. Il peut mieux servir le Cameroun maintenant que par le passé.
Oui, mais on veut le voir à l'œuvre. C'est pour cela. Je ne l'ai jamais vu aller dans le...
Il signe les décrets.
Oui, nous ne l'avons jamais vu aller dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça fait 4 ans que ça dure. Comment on peut être leader? et vous avez une portion de votre nation qui est en train de
mais
brûler.
Mais la zone est dangereuse. Comment vous voulez envoyer le chef de l'État dans une zone dangereuse?
Oui, mais la zone n'est pas devenue, est devenue dangereuse, mais n'a pas commencé avec le danger. Vous savez très bien que c'est plusieurs mois après le début de la crise anglophone que la phase armée a bien démarré. Mmh. Or, dans toutes les autres grandes démocraties du monde, dès qu'il y a une étincelle, le lendemain, le leader est sur place pour constater de lui-même et dialoguer avec les gens. Or, je crois que le président est fatigué, ne nous faisons pas d'illusions. À cet âge-là, on ne peut pas avoir toutes ses facultés comme si l'on avait 50 ans. Mmh. Cessons de nous mentir à nous-mêmes. C'est pour cela que je pense que dire que le président doit céder la place à quelqu'un de plus vigoureux à travers un dispositif électoral plus équitable et plus transparent, ce n'est pas avoir quelque chose contre le président, simplement de dire faisons jouer la démocratie camerounaise et puis les Camerounais pourront renouveler leur classe politique. Donc voilà.
Mais si je comprends bien, pour vous au moins le président est vivant, il est seulement fatigué parce que pour certains il n'est plus là.
Je ne sais pas s'il est vivant ou s'il est mort. De toute façon, je ne l'ai pas vu, ça fait des mois.
Bah, il est bien sorti le 19 mai. On a vu pour s'adresser au peuple.
Oui, mais pourquoi est-ce que le président doit procéder par apparition? Pourquoi on ne le verrait pas plus souvent? Le leadership, c'est aussi la visibilité du leader. On ne peut pas gouverner par si vous voulez par procuration ou bien dans en se cachant. Il faut se montrer, prendre les devants, donner des orientations. Maintenant on constate que c'est par personne interposée que ce pays est dirigé et ce type de leadership ne nous convient plus aujourd'hui.
On parle de votre livre dans un petit moment. La question de Boris depuis l'Italie. Question au père Lado, pourquoi tous les prêtres jésuites sont des intellectuels de très haut niveau, professeurs d'université, scientifiques, etc. Et je rappelle que vous aussi, vous avez un grand doctorat en anthropologie obtenu à Oxford en Angleterre.
Oui, c'est pas tous les jésuites qui sont des grands universitaires et ont des doctorats, non. Bien évidemment, chez nous, on met un accent particulier sur la formation intellectuelle du prêtre, parce qu'on sait qu'il a affaire à une société en constante mutation. Et donc, il faut être capable de relever les défis du monde actuel. Et par conséquent, on met le paquet pour que la formation intellectuelle du jésuite soit au point. Mais tous ne vont pas jusqu'au doctorat. C'est ceux qu'on destine à l'enseignement supérieur qui vont jusqu'au doctorat, et ça se comprend. Mais je reconnais que dans notre cursus de formation, parce qu'on fait après le bac, il faut faire au moins 12, 13, 14, 15 ans pour devenir jésuite. Et donc, ça fait qu'on a du temps pour mûrir intellectuellement, mais aussi spirituellement. Et donc, c'est pour cela qu'on trouve les jésuites pratiquement dans tous les domaines dans tous les domaines professionnels.
Est-ce qu'avec cet amas de connaissances, évidemment, livresques, culturelles, spirituelles, est-ce que finalement vous ne vous positionnez pas contre la véritable parole de Dieu? Il me souvient que ce sont les grands prêtres qui étaient considérés comme les plus grandes sagesses juives. Ce sont ces grands prêtres qui ont tué Jésus.
Très bonne question. Non, nous croyons que l'intelligence est au service de la foi et que chacun doit mettre son intelligence au service de la foi. D'ailleurs, beaucoup étudier, mais aussi beaucoup prier. C'est pour cela que la raison ne va jamais. La raison qui divorçait de la foi, la raison devient mortifère. Mmh. Parce que la raison est là pour éclairer la foi, mais la foi aussi est là pour éclairer la raison. Mmh. Et les deux doivent constamment être utilisés ensemble ou nous accompagner.
Et beaucoup construisent leur foi aussi sur leurs avoirs, sur leur intelligence, sur leur sagesse.
Oui.
Peut-être que c'est la raison pour laquelle Jésus est allé choisir ceux qui n'étaient pas allés à l'école, Pierre, Jean et tout le reste. Évidemment, parce que certains s'appuient aujourd'hui sur leur sagesse.
Alors oui, tout à fait. C'est pour cela que je dis la raison sans la foi ne va pas très loin. Et vous faites bien d'indiquer que les apôtres de Jésus n'étaient pas des intellectuels, c'était des hommes simples, parce qu'en réalité, pour
personne. Facilement transformables.
Facilement transformables, et parce qu'en réalité, quand on étudie beaucoup, on risque de devenir orgueilleux, parce qu'on s'appuie, on voudrait simplement s'appuyer sur ça. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'athées dans les mondes scientifiques aujourd'hui. Dès qu'ils découvrent un pan du mystère de la réalité, ils croient qu'ils peuvent percer le mystère de Dieu et deviennent orgueilleux. C'est pour cela que la raison doit être toujours accompagnée ou contenue ou tout au moins orientée, éclairée par la sagesse de la foi. Et comme le disent si bien les Saintes Écritures, la sagesse de Dieu est plus forte, bien évidemment, que la sagesse de l'homme. Mais on ne les oppose pas. La sagesse de l'homme doit être nourrie par la sagesse de Dieu. Mm-hmm. Et donc, raison et foi, encore une fois, doivent toujours aller ensemble.
Père Ludovic Lado, vous allez nous dire en quelques mots ce que vous avez vu à Kumba, parce que vous revenez de Kumba et vous y êtes allé dans la région du Sud-Ouest il y a quelques jours. Mais il y a une question d'auditeur. Vous affirmez être des représentants de Jésus sur la terre, mais à aucun moment dans la Bible que vous maîtrisez mieux que nous. Jésus ne s'est mêlé de la politique. La preuve, il a déclaré que son royaume ne fait pas partie de ce monde. Ne pensez-vous pas que votre combat politique se situe aux antipodes de la foi chrétienne et de votre mission sacerdotale?
Alors, oui, effectivement, Jésus n'était pas un homme politique, mais qui l'a condamné? C'est Pilate. Pilate, c'est un homme politique. Et pourquoi est-ce qu'on l'a condamné? C'est parce qu'on estimait qu'il était subversif. Et donc, par conséquent, même si en tant que prêtre, je ne suis pas homme politique, je dois me préoccuper de la justice sociale. Et quand on se préoccupe de la justice sociale, on rencontre nécessairement le politique sur son chemin. Et cette rencontre peut être fatale. Et c'était le cas de Jésus. Donc, encore une fois, je veux nuancer en disant oui. J'ai pas à faire la politique partisane au sens où je dis je suis de tel parti et non de tel autre parti, mais je dois être attentif à la manière dont la politique se déploie dans mon pays ou dans tout pays où je travaille et signaler, tirer la sonnette d'alarme quand la politique n'est plus au service du bien commun. Et quand je le fais, je ne peux ne pas rencontrer le politique ou les hommes politiques sur mon chemin. Et comme dans le cas de Jésus, cette rencontre peut être fatale. Vous vous souvenez que quand on vient voir Jésus en disant « on paye l'impôt à qui ?»« À César » ou « on ne paye pas ?»
Il dit « remettez à César,
ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Certains utilisent cette citation pour dire qu'il faut séparer le politique du religieux. C'est vrai, le politique ne doit pas se confondre avec le spirituel. Mais c'est le même Jésus qui dit « Heureux les artisans de la justice, heureux les persécutés pour la justice ». Et donc, l'Église en principe, le prêtre en principe et le chrétien tout court, à un moment donné, surtout dans une société pleine d'injustice, va vivre la persécution parce qu'il dit la vérité et il défend la justice. Et quand vous le faites, vous ne pouvez ne pas être persécuté.
On va entrer dans le livre dans une minute. Brièvement, comment a été votre séjour à Kumba? Racontez-nous ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Comment ça s'est passé?
Alors, je n'avais pas prévu d'aller à Kumba quand je venais au Cameroun. Pour la petite histoire, c'est Covid qui me retient au Cameroun puisque je suis en mission au Tchad. Et donc, j'attends la rouverture des frontières pour repartir sur N'Djamena. Mais il se trouve que pendant mon séjour au Cameroun, on m'a demandé d'aller rendre service à Kumba. Et c'est pour ça, j'en ai profité pour faire une petite chronique de mon voyage. Et ça m'a ouvert les yeux sur certains pans ou aspects de la crise anglophone, comme on l'appelle. J'ai donc rencontré pas mal de citoyens camerounais qui vivent cette crise au quotidien. J'ai causé longuement avec un certain nombre d'entre eux. Et le constat que je fais, c'est que cette zone, comme toutes les zones anglophones minées par cette crise, n'est plus entièrement, bien évidemment, sous le contrôle de l'État. Si les axes principaux qui sont jonchés de détachement de l'armée sont relativement sécurisés ou safe, pour parler en anglais. Les périphéries sont entre les mains des groupes ou des ambazoniens, et c'est eux qui font la loi dans ces régions-là. Et le sentiment que j'ai, c'est que le commun du mortel, c'est-à-dire le petit peuple, est un peu pris en otage entre ces deux forces. Et ça fait que leur vie quotidienne est bien évidemment perturbée par les bagarres entre les deux parties. Et c'est pour cela que je plaide, comme nous l'avons toujours fait de l'élu, pour que cette crise soit résolue par le dialogue. Je me réjouis d'apprendre ces jours-ci qu'il y a des contacts qui ont eu lieu entre les deux camps, c'est-à-dire entre le gouvernement et les leaders ambazoniens, et j'espère qu'on va poursuivre dans cette lancée pour libérer le peuple, cette partie du peuple
camerounais.
Est-ce
que c'est le début d'un aboutissement?
J'espère, et je prie pour cela. Je crois que tout le Cameroun le souhaite, qu'on mette un terme à cette crise qui a déjà fait beaucoup de dégâts, pour que le sang ne coule plus dans cette partie du Cameroun. Mais cela passe ou passera non seulement par le dialogue, mais par des réformes. On n'a pas le choix. Il faut qu'on se parle.
Père Ludovic Lado, jésuite, anthropologue, actuellement directeur général du Centre d'études et de formation pour le développement à N'Djamena, c'est au Tchad. Évidemment, c'est un plaisir de vous recevoir et nous parlons de votre dernière production, « Comment prendre une bonne décision ». C'est le livre que vous venez de coproduire, « Guide de discernement spirituel dans la vie quotidienne ». Parlez-nous de cet ouvrage.
Comment prendre une bonne décision vous savez, Gandhi que nous connaissons très bien,
Le père de la non-violence.
Voilà, il dit sois le changement que tu veux voir dans le monde. Be the change you want to see in the world. Donc sois le changement que tu veux voir dans le monde. Et donc pour que le monde change, il suffit pas seulement que les systèmes changent. Quand on dénonce les systèmes politiques qui accouchent de la mort et non de la vie, on pense au changement structurel. Mais il y a aussi le changement individuel. Ce pays ne peut pas changer si chacun de nous ne change pas. Parce que ce pays est la somme de nos décisions. Et si elles sont bien prises, et quand je dis décisions, c'est aussi bien de ceux qui nous dirigent que de nous autres. Si chaque citoyen, à son niveau, fait bien son travail, ce qui suppose qu'il prend les bonnes décisions là où il se trouve, et qu'on a une masse critique de citoyens camerounais qui prennent de bonnes décisions au quotidien, ce pays changera qualitativement. Et donc, ce livre donne quelques repères aux chrétiens en priorité, mais à tout homme, parce que ce canevas peut être utile à tout homme, qu'il soit chrétien ou pas, pour prendre des bonnes décisions en famille, au travail, dans la gestion de la chose publique. Donc voilà, en résumé, c'est un peu le but de ce livre, c'est donner des repères à tout homme, surtout aux chrétiens, et ils sont nombreux dans ce pays. Je crois que les statistiques nous diront qu'ils sont plus de la moitié de la population. Ça veut dire que s'ils prennent chacun de bonnes décisions là où ils sont placés par Dieu, ce pays irait beaucoup mieux. S'ils prenaient de bonnes décisions, ce pays irait beaucoup mieux. Donc, c'est une chose de tirer sur ceux qui dirigent, mais c'est aussi important pour chacun de nous de faire son introspection pour se demander si, là où je suis, est-ce que je brille par la qualité de mes décisions.
Mais parfois les bonnes actions sont noyées parmi les mauvaises.
Oui, bien sûr. C'est pour cela que je parlais de la masse critique. Si on a une masse critique de Camerounais qui prennent des bonnes décisions au quotidien, sur la balance, on pèsera du côté du bien. Donc, au fond, le but, c'est de dire que si ce pays va mal, c'est pas seulement du fait de l'irresponsabilité de beaucoup de nos leaders, c'est aussi du fait de l'irresponsabilité des citoyens au quotidien. On parle de l'incivisme. On parle de, prenons le cas de Covid-19, la lutte contre Covid-19. On a beaucoup évoqué l'incivisme des Camerounais dans le respect
des mesures barrières.
Même si vous avez le meilleur gouvernement du monde et que les citoyens ne respectent pas ou ne prennent pas de bonnes décisions, n'ont pas de bonnes attitudes, ce gouvernement ou ce ne fera pas de miracle pour que le pays aille mieux.
Moi, je voudrais savoir comment, parce que dit que prendre des bonnes décisions, c'est une chose. Est-ce que dès qu'on ouvre le livre et qu'on l'a lu, on prend directement des bonnes décisions? Ou alors, lorsqu'on est face à une situation, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on a des questions à se poser pour prendre la bonne décision? Comment faire pour prendre une bonne décision?
Voilà. Et donc, dans le livre, nous parlons des 3D. Les 3D
du discernement.
Du discernement. Et ce sont ces 3D qui nous mettent sur la voie, qui mènent à une bonne décision. Et les 3D, c'est quoi?
Distinguer,
délibérer
et décider.
Et on aurait pu ajouter 3DC, parce que le dernier volet, c'est la confirmation. Quand vous avez distingué, que vous avez délibéré et quand vous avez décidé, il faut maintenant, dans la mise en œuvre de la décision, qu'il y ait confirmation, que vous sentiez qu'effectivement, la décision que j'avais prise était la bonne. Si on se rend compte dans la mise en œuvre qu'elle n'est pas adaptée à la situation qu'on avait en face, eh bien, à ce moment-là, on réajuste le tir. C'est pour cela que c'est dans la mise en œuvre d'une décision prise que s'opère la confirmation qu'on a véritablement pris une bonne décision. Mais les détails, vous les trouvez dans le livre.
Et vous exhortez les chrétiens, et pas seulement, à impliquer Dieu dans toutes les décisions qu'ils prennent.
Exactement. C'est-à-dire que quand on est face à un choix à opérer, à une décision à prendre, il ne suffit pas de laisser les émotions ou bien les considérations pas très, à la limite pas très chrétiennes, guider notre... Par exemple, si vous avez à recruter quelqu'un, si vous êtes un agent de recrutement et que vous avez plusieurs candidats devant vous, la question c'est: quel est le meilleur candidat pour ma boîte? Et à ce moment-là, et bien évidemment, la décision que vous avez à prendre, c'est d'étudier les dossiers de ce que... C'est ça, distinguer. C'est d'étudier les dossiers de ceux que vous avez en face. Ensuite, vous délibérez. Délibérer, ça veut dire vous peser les pour et les contre à la lumière de vos valeurs, à la lumière de vos objectifs, à la lumière de votre spiritualité, à la lumière simplement de la raison. Et c'est ça, délibérer. Et en fin de compte, vous décidez en faveur de la personne la plus indiquée. Mais vous pouvez aussi vous laisser guider dans votre délibération par des considérations biaisées. Il est de quelle religion? Il est de quelle ethnie? Il est de quelle... Or, ces considérations certainement vous conduiront à une mauvaise décision, parce que vous risquez de faire passer un candidat simplement parce qu'il partage votre religion ou partage votre... Il est de la même ethnie que vous.
Et ce
vous
serait une décision par émotion.
Par émotion. Et d'ailleurs, l'un des principes cardinaux de prise de décision, c'est que en situation émotionnelle, de haute émotion, on ne prend pas de décision. Que ce soit la haute tristesse ou la haute joie. Oui, il ne faut pas prendre de décision.
Et parce que l'émotion a pour vocation d'être mensongère.
L'émotion, elle peut même être véritable. C'est-à-dire, votre joie peut être réelle. Prenons le cas qu'on donne le plus souvent, c'est quelqu'un qui est amoureux.
Oui, j'ai déjà souffert de ça.
Ah ben voilà, si vous êtes amoureux, vous faites des promesses que vous ne pouvez pas tenir parce que vous êtes en haute intensité émotionnelle et cela biaise votre raison et votre capacité de décider clairement. Et alors on demande en général d'attendre de retrouver sa paix ou son statut normal ou ordinaire pour soit faire des promesses ou soit prendre des bonnes décisions.
Parce que l'amour
en aveugle est bien évidemment...
Même si on n'est pas aveugle.
Dans la huitième des 10 clés que vous proposez pour prendre la bonne décision, en guise de conclusion, vous parlez de passer à l'action en résistant à la petite voix saboteuse. Oui. C'est quoi cette voie?
Alors, vous savez, quand vous avez affaire à des décisions cruciales dans votre vie, en général, et c'est pour cela que l'un des principes dans la prise de décision, c'est qu'il faut écouter son cœur. Il faut écouter cette... Et en général, quand on écoute son cœur, on entend plusieurs voix. Il y en a, il y en a, il y en a qui vous...
Pourtant, on a un cœur.
On a un seul cœur, mais c'est d'ailleurs pour cela qu'on parle de discernement des esprits. On sent plusieurs voix en soi, et ces voix ne viennent pas toutes du bon esprit. Voilà. La voix qui vient du bon esprit va vous orienter vers ce qui va faire fleurir votre vie, alors que la voix saboteuse, c'est celle qui va chercher à vous... découragé, à vous dire non, vous ne pouvez pas, vous vous prenez pour qui, d'ailleurs regardez votre passé, vous n'avez jamais rien fait de bon dans votre vie.
Et, oh, mais c'est parfois elle qui parle plus fort, mon père.
C'est elle qui parle plus fort, et justement le
elle,
but...
elle raisonne quand l'autre s'est arrêté.
Oui, elle raisonne, et c'est pour cela qu'il faut délibérer, parce que quand vous délibérez et vous prenez le temps, vous prenez le temps de décider, de délibérer et donc de peser à la lumière de la raison, de vos valeurs, de vos repères, eh bien, vous finissez toujours par distinguer ces voix-là. Vous finissez toujours par vous dire non, celle-ci, elle n'est pas la bonne. Surtout si elle ne me propulse pas vers le meilleur de moi-même. Je viens de voir que votre devise, c'est Think Big.
Start small.
Think big, ça veut dire qu'il faut rêver grand. Mais la petite voix ne vous demandera jamais de rêver grand. La petite voix vous enfermera dans les petits quotidiens.
Elle montrera des obstacles.
Elle vous montrera constamment des obstacles et vous montrera que vous ne pouvez pas. Vous êtes prétentieux. Or, quand vous rêvez grand et que vous allez pas à pas, eh bien, la mise en œuvre des petites décisions par étapes que vous prenez vous permet de confirmer, de vérifier que vous êtes sur la bonne voie et ensuite de vous ajuster au fur et à mesure.
Alors, prenons cet exemple pour sortir, la délibération rationnelle. On parle un peu de l'approche des avantages et des inconvénients. Alors, prenons un exemple qui est dans votre livre. Si je veux acheter une voiture, vous me demandez de construire un tableau.
Oui, vous faites un tableau. Ça, c'est une des approches. Et dans cette approche, vous utilisez la balance de la raison. Or, la raison, c'est en général ce que nous appelons le bon sens. Et donc, est-ce que je dois acheter une voiture ou pas maintenant? Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des deux options? Vous prenez dans votre tableau, quels sont les avantages et inconvénients à ce moment précis de ma vie si j'achète une voiture? Quels sont les avantages et inconvénients à ce moment précis de ma vie si je n'achète pas une voiture ou une maison ou je ne sais pas quoi d'autre? Et quand vous avez fait avantages et inconvénients pour chacune des options que vous avez bien pris la peine de distinguer, vous pesez, et c'est ça la délibération. Or, peu font ce travail préliminaire, et c'est pour cela qu'on fait souvent, on prend souvent de très mauvaises décisions, et quand on prend des mauvaises décisions, ça nous sort de notre chemin dans la vie. Parce que nous sommes chacun sur cette terre pour une mission, et quand chacun trouve la sienne, eh bien, les décisions au quotidien nous permettent en effet de fleurir et de mener ce que, effectivement, l'Écriture appelle la vie en abondance.
Et en définitive, que retenir? Justement, en définitive, que dites-vous donc aux jeunes, à tous ceux qui vous écoutent maintenant et qui prennent souvent des décisions sur le coup de l'émotion sans rationnellement éprouver les décisions ou les résolutions qui sont prises? Souvent, des résolutions, c'est pour contenter les autres, parce que nous sommes dans un monde où les gens vivent par mimétisme. J'ai mon frère qui a déjà une voiture, il faut que j'achète aussi une voiture. Voilà, j'ai ma cousine qui a un terrain, il faut que j'achète aussi un terrain.
Voilà.
Que dites-vous?
Mon ami avait une fille brune, moi aussi me fais.
Voilà. C'est autant de...
Le prêtre jésuite reçoit beaucoup de fidèles qui lui donnent les cadeaux. Il faut que je devienne aussi
prêtre jésuite.
Exactement. Non, mais je suis d'accord avec
c'est
vous.
À ce moment, c'est un prêtre déguisé.
Ah, mais oui, on ne le souhaite pas pour un prêtre.
Oui, parce qu'il a été conduit par les privilèges.
Mais exactement. Si on se laisse motiver dans ses prises de décision par des fausses raisons, eh bien, on sort de son trajet de vie. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas que chacun doit mener sa vie. Si vous cherchez maintenant à mener la vie de l'autre, vous ne serez plus vous-même. Et c'est pour cela qu'en fin de compte, je dis ceci, souvent, quand on a des bonnes décisions, quand on a des décisions à prendre, on va voir les autres et on dit, mais qu'auriez-vous fait à ma place? Mais la personne ne peut jamais se mettre à votre place. À la limite, la personne peut vous conseiller. Mais en fin de compte, la décision doit venir de votre cœur. Et quand elle vient du plus profond de vous-même, après avoir pris le temps de réfléchir, de prier, de méditer, et ça demande parfois même que l'on prenne des moments de silence intérieur et extérieur pour que cette voix qui en fait est la voix de Dieu en nous, que nous puissions véritablement l'écouter. Et parce que nous vivons dans un monde qui a beaucoup de bruit, le téléphone, la télévision, internet, les réseaux sociaux, et du coup il y a beaucoup de bruit extérieur mais aussi beaucoup de bruit intérieur, et ça fait que on n'a pas le recul nécessaire pour prendre des décisions importantes à des moments clés de notre vie, et comme vous le savez, vous ratez une des décisions à un moment clé de votre vie, ça vous prendra des années pour revenir ou pour faire marche arrière et vous remettre sur la trajectoire qui est censée être la vôtre dans la vie. Et c'est pour cela que je recommande ce livre surtout aux jeunes adolescents, mais aussi aux jeunes adultes, parce que c'est à ce moment-là de la vie qu'on prend des décisions cruciales qui déterminent l'avenir de
notre vie. Et il coûte combien, où le trouver, mon père?
Alors, il coûte 3000 francs et on le trouve à la librairie Baba Simon au niveau de la cathédrale. Et d'ailleurs, toute cette semaine, le livre est en promotion au niveau justement de la cathédrale, où je dirais des messes tout au long de la semaine pour faire la promotion de ce livre que j'estime très important pour guider les chrétiens et tout homme de bonne volonté dans la prise de bonnes décisions.
C'est clair, il est important, j'ai déjà le mien, mon père. Alors, est-ce que le prêtre jésuite peut se marier?
Non, bien évidemment. Voilà. Dans l'église catholique romaine ou de rite romain, les prêtres ne se marient.
Mais ils font comment pour satisfaire leur libido alors?
Ben, ils sont...
Et puis le Seigneur.
Blague, je suis à la source, laissez-moi prendre la parole.
Ben justement, en psychologie, on parle de la sublimation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, si vous vous plaisez dans le métier que vous faites, eh bien, ces énergies qu'on aurait pu libérer autrement, vous les libérez à travers votre vocation et la passion que vous avez pour votre vocation. Vous savez, il y a des scientifiques qui décident de ne pas se marier parce qu'ils ont choisi d'être scientifiques et passent toute leur vie dans les laboratoires parce que c'est là-bas que leurs énergies, y compris leurs pulsions sexuelles, sont satisfaits, c'est dans la recherche scientifique. Et donc, ils font ces sacrifices et c'est ce que notre formation est censée nous aider à faire. C'est pour ça qu'elle dure. C'est pour éprouver la capacité de maîtrise de soi et de vie chaste dans le parcours qui est le nôtre. Je ne dis pas que c'est facile, il y a des égarements, je le sais.
Souvent, vous avez envie de vous marier. Et quand vous regardez une femme, peut-être qui est sexy,
ouais,
tout ça, qu'est-ce que ça vous fait?
Vous fait ce que ça nous fait.
Là, quand il y a les nous prendre la sauce.
Oui, mais bien évidemment.
Est-ce que vous ne vous dites pas, ouais, qu'est-ce que je fais même dans le jésuisme?
Mais bien évidemment, il arrive que quand vous êtes en présence d'une famille, d'un homme marié qui a ses enfants et sa femme, ou que vous rencontrez une femme qui ne vous laisse pas indifférent, vous vous posez des questions, parce que bien évidemment on reste des hommes, mais vous vous posez des questions, mais en même temps vous vous dites, on n'est pas que des animaux, donc c'est pas parce que toute femme, même quand on est marié, c'est pas parce que toute femme qu'on rencontre ensuite sur le chemin, il faut sauter dessus. Il y a la maîtrise de soi, fait partie des éléments de maturation humaine, et ça vaut non seulement pour le prêtre, mais même pour des personnes mariées.
Mais est-ce qu'on peut décider de rompre, de déposer, de régner le sacerdoce?
Et c'est d'ailleurs ça que j'aime le plus dans l'Église catholique, c'est que c'est un chemin de liberté. À tout moment, vous pouvez décider. Et à ce moment-là, vous écrivez une lettre au pape pour dire, bon, écoutez, libérez-moi.
C'est bon, là,
c'est bon, je veux me marier.
Serez-vous prêt à le faire, mon père?
Je ne suis pas encore arrivé à cette... Non, non, je ne suis pas encore arrivé à cette décision. Pour l'instant, je suis heureux d'être prêtre.
Petite question comme ça. Mon père, votre argent que vous gagnez, vous investissez, vous avez des immeubles, vous avez des maisons, est-ce que vous investissez?
Non, le jésuite fait, ben vous savez, même dans le mariage, il y a ce qu'on appelle régime de biens communs. Alors, quand vous êtes religieux, quand vous êtes prêtre diocésain, vous pouvez avoir vos biens. Mais quand vous êtes prêtre religieux, tout ce que vous gagnez va dans la caisse commune et à partir de la caisse commune, on vous prend en charge. Et donc, je n'ai pas de bien personnel que je peux appeler bien du père Lado. Mais je ne manque de rien parce que ma congrégation pourvoit à mes besoins. Donc, c'est comme ça que nous fonctionnons.
Merci beaucoup, Père Ludovic Lado, Père jésuite, anthropologue, auteur. Et je rappelle que votre livre vient de paraître. Comment prendre une bonne décision? C'est à retrouver justement dans les éditions Veritas au niveau de la cathédrale. Vous pouvez retrouver ce livre. Il est en promo. Il coûte 3000 francs CFA. Merci énormément, docteur, d'être venu sur ABK Radio.
Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci et très bonne journée à tous les auditeurs.